Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de graphite 94.9. Aujourd'hui, une émission encore consacrée à l'écologie. Oui, deux semaines d'affilée. On va parler de construction écologique, de maisons en bois, juste après ce générique. Pour m'accompagner dans cette émission, le président, directeur, comment on vous nomme du coup?
Le directeur, le gérant directeur.
De l'entreprise s'appelle Acroterre. On fait un briefing sur l'entreprise, son historique, sa genèse.
Oui, bonjour. Donc Hervé Pio, gérant de la SCOP Acroterre. Donc Acroterre, c'est une société coopérative qui a été créée en 2010 après avoir créé une première association et une entreprise artisanale. Donc c'est Monsieur Van Ness et moi-même qui avons créé Acroterre dans le but de proposer une offre en construction écologique sur la région donc du Compiénois. Et donc on travaille actuellement sur l'ensemble de la région Picardie.
Vous, c'était quoi votre cursus? Vous étiez un ancien de l'UTC, c'est une reconversion ou c'est finalement un cheminement un peu normal de monter sa boîte en passant par l'UTC?
Alors c'est effectivement une reconversion. Moi j'ai été enseignant pendant 10 ans à l'UTC, je travaillais au service de la formation continue, je suis enseignant de génie mécanique et par ailleurs j'étais passionné par le bâtiment. J'ai pris notamment une année de disponibilité pour faire une formation en architecture, donc passer une licence d'architecture. Et suite à ça, j'ai souhaité me réorienter donc vers effectivement le privé, donc créer ma propre entreprise et me réorienter vers le bâtiment.
Alors là, vous l'avez dit, c'est une SCOP, c'est quand même une formation assez particulière. C'était un choix dès le départ de faire de l'écologie et en plus de ça, de faire une coopérative ouvrière.
Voilà, ça va effectivement dans le sens de l'écologie. Pour nous, le statut de SCOP, c'est l'écologie sociale, on va dire. C'est-à-dire que c'est bien de respecter la planète, c'est bien de respecter aussi les hommes et les travailleurs. Donc le principe de la SCOP, il est assez simple, hein, c'est que ce sont les salariés qui sont actionnaires de leur propre entreprise.
Alors Acroterre, aujourd'hui, c'est une entreprise avec combien de salariés? Combien d'actionnaires comment on les nomme? Du coup, c'est des salariés,
c'est des actionnaires, sociétaires, donc, des sociétaires. Voilà, des sociétaires, donc ce sont des parts sociales, hein, ce ne sont pas des actions. Donc on est actuellement 8 personnes. On a un étudiant en alternance donc, qui n'est pas sociétaire et deux nouveaux arrivants donc, qui ne sont pas encore sociétaires non plus. Donc on est actuellement 5 sociétaires parmi les 8 salariés.
Ah, c'est un peu comme dans les entreprises d'avocats, en fait. On devient ensuite sociétaire une fois qu'on a fait un peu ses preuves. On est junior au départ et ensuite on peut...
Voilà, c'est ça. Ouais. On a effectivement, dans les statuts, on a 2 ans pour proposer sa candidature au sociétariat, qui généralement est accepté par l'Assemblée Générale.
Ça marche comment? Du coup, on monte au capital de l'entreprise. Comment ça se déroule pour devenir, justement, j'avais jamais rencontré quelqu'un d'une SCOP. Comment ça se marche pour devenir sociétaire d'une SCOP?
Effectivement, on monte au capital de l'entreprise. Alors la particularité, c'est que comme ce sont les salariés, donc ce sont des ouvriers ou des techniciens, donc ils n'ont pas forcément 10 ou 50 000 euros à mettre directement dans l'entreprise. Donc il y a un prélèvement qui est fait de 3% tous les mois sur leur fiche de paye jusqu'à ce qu'ils atteignent 3 mois d'équivalent de salaire en capital. Et à partir de là, on cesse les prélèvements.
Alors pour cette entreprise, aujourd'hui vous proposez des constructions en bois. Quelle est la particularité à part l'écologie du bois?
Alors, nous, on a choisi effectivement de construire avec la technique de l'ossature bois. Ce qu'on souhaitait au départ, c'était proposer une offre donc en bâti écologique. Écologique, ça veut dire qu'on travaille d'une part sur la performance, évidemment, pour que les ouvrages consomment le moins possible d'énergie, notamment pour leur chauffage et leur éclairage. Mais ça veut dire aussi qu'on travaille sur les matériaux de façon à ce que les matériaux soient le moins consommateurs d'énergie possible. Donc l'intérêt du bois, c'est que d'une part, il nécessite très peu d'énergie à sa production. Il stocke en plus du CO2 au fur et à mesure qu'il pousse. Et donc couper un arbre et le mettre dans un bâtiment quelque part, c'est stocker du CO2. Et c'est également une ressource qui est renouvelable à partir du moment où les forêts sont gérées correctement. Voilà, donc c'est une ressource qui est totalement pérenne.
Donc là, il y a un suivi également du bois que vous utilisez. C'est du bois qui vient de quelle région, de où ?
Alors, on est nous-mêmes certifiés PEFC, donc ça veut dire qu'on a effectivement un registre du bois qui rentre et du bois qui sort. Donc, on contient à jour. On doit donc, dans le cadre de cette certification, s'assurer que les bois proviennent de sources qui sont gérées durablement. Donc, c'est du bois qui vient essentiellement de France et pays limitrophes, donc Scandinavie, Allemagne et Belgique.
C'est les pays qui gèrent plutôt facilement leurs ressources.
Voilà, tout ouais. à fait. Ouais. Donc, pays scandinaves, on a un renouvellement qui est parfait, sur l'Allemagne aussi. Belgique, ils travaillent surtout sur du panneau, donc ils achètent en fait des déchets bois qu'ils transforment sous forme de panneaux et qu'ils revendent ensuite sur l'Europe.
Du coup, c'est des panneaux qui sont, c'est du bois qui est compressé et qui est maintenu avec quoi ? Avec des colles, avec des solvants ? C'est quoi qu'il y a pour faire
Alors,
un panneau ?
Alors, il y a différents niveaux de performance environnementale, on va dire, pour les panneaux. Basiquement, les panneaux de bois, on va dire, qu'on utilise en intérieur sont collés avec leur propre résine. Et ensuite, sur les panneaux qui sont censés être résistants donc à l'humidité, on a effectivement un certain nombre de colles. Nous, on choisit nos panneaux dans les gammes les moins émissives en formaldéhyde et en composés organiques volatiles.
Ça marche bien le bois en Picardie, malgré qu'on soit quand même une terre de pluie, une terre d'humidité. Est-ce que ça résiste bien ? C'est combien la vie d'un bâtiment en bois ?
Alors, il faut bien distinguer la structure bois et l'habillage bois. C'est-à-dire que nous, notre technique, c'est l'ossature bois. L'ossature bois, elle peut être aussi bien revêtue de bois à l'extérieur que d'un enduit ou de briquettes. Voilà, donc qui, eux, sont parfaitement résistants aux intempéries. Donc, la structure bois en elle-même, elle résiste aussi longtemps qu'on le souhaite, à partir du moment où, effectivement, où elle est bien protégée des infiltrations, donc il n'y a pas de fuite dans la toiture ou dans l'habillage extérieur.
On en parlait en antenne, c'est vrai qu'aux États-Unis, le bois est assez présent dans les maisons, même au Canada où il y a beaucoup de maisons en bois, alors qu'ils ont quand même des climats assez, assez particuliers, puisqu'il fait très chaud l'été, par exemple à Montréal, et très froid l'hiver. Pourquoi du coup c'est culturel, cette dichotomie entre la France et les pays des États-Unis ?
Alors, je pense qu'en France, on a une culture de la maçonnerie qui est très, très importante. Hein. Aujourd'hui, en dehors des zones montagneuses et éventuellement de la Normandie, on a très peu de construction, de culture de la construction bois. Aux États-Unis, ils sont partis directement sur ces techniques-là parce que c'était les plus rapides et ils avaient une ressource de bois énorme. Aujourd'hui, la proportion de la construction bois sur la Picardie, en tout cas, c'est à peu près 10%. Par rapport à l'ensemble de la construction. Sur les zones montagneuses, on atteint 20%. Voilà. Mais on reste dans une culture quand même très ancrée sur la maçonnerie, avec l'histoire des trois petits cochons qui ne nous a pas beaucoup aidés non plus.
Donc c'est faux en fait, hein. le loup ne peut pas souffler une maison en bois, pas plus qu'une maison en pierre ou en paille.
Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'image aussi des tornades aux États-Unis avec les maisons en bois qui s'envolent. Savoir qu'aujourd'hui, d'une part en France, on a heureusement pour l'instant pas de tornade comparable à celle qu'on a aux États-Unis. Et on est sur des techniques de construction qui sont plus évoluées, on va dire, que celles qu'on peut rencontrer historiquement aux États-Unis, voilà, avec des documents techniques qui nous imposent un certain nombre de règles à respecter.
Pour parler de la paille, c'est vrai que vous parliez de l'ossature. Est-ce que vous faites avec la paille, est-ce que, comment ça s'appelle, l'isolation par la paille ? Vous faites ce genre de technique ?
On peut le faire. On a des exemples assez intéressants qui commencent à sortir, notamment le siège de la Fédération française du bâtiment qui a été construite à Compiègne en face du point P, près du rond-point de l'Europe, donc qui est entièrement isolé en bottes de paille. Donc effectivement, on commence à avoir quelques acteurs qui montrent qu'on peut tout à fait faire des choses intéressantes avec ce matériau, qui est un matériau local et qui, pour le coup, ne demande quasiment aucune énergie pour sa fabrication.
Il y a un entretien particulier pour tous ces matériaux ? Est-ce qu'il faut les lasurer, les peindre ? Est-ce qu'il faut les entretenir chaque année ?
Alors, donc là, on revient sur la question du bois en structure ou du bois en habillage. Pour le bois en structure, il n'y a aucun entretien puisque c'est un bois qui est à l'intérieur des murs. Donc, il est naturellement résistant ou éventuellement traité.
C'est comme
donc,
la charpente dans une habitation normale, en fait.
Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas d'entretien particulier. Il faut simplement s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration, évidemment. Et ensuite, le bois en extérieur... Nous, on utilise des essences qui sont naturellement résistantes. Après, c'est tout une question d'esthétique. Donc là, effectivement, on a des chantiers qui montrent qu'on a un vieillissement qui n'est pas forcément heureux. On peut proposer d'autres matières, d'autres matériaux avec plus ou moins d'entretien. Là, on a un très, très large choix de finition extérieure en fonction des besoins et des attentes.
Alors, dans le communiqué de presse, vous marquez que vous êtes très fier de nous présenter la collection 2017. Il y a une collection, c'est un peu comme les vêtements, les montres et les chaussures.
Alors, initialement, on est vraiment spécialisé sur la construction sur mesure, hein, c'est-à-dire qu'on travaille quasi essentiellement avec des architectes pour de la maison individuelle ou pour du bâtiment tertiaire, donc salle des fêtes, cantine scolaire, ouvrages publics divers. Et on a souhaité lancer notre propre gamme donc sur deux secteurs différents. D'une part, la maison individuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assimilé pavillonneur, c'est-à-dire qu'on propose nos propres maisons clés en main. Et on a lancé par ailleurs une gamme de studios de jardin. Donc qui sont des petits studios qui sont entièrement fabriqués chez nous, donc entièrement montés avec toutes les installations électriques, sanitaires, etc., entièrement assemblés chez nous, et qu'on peut ensuite déposer simplement dans un jardin ou sur le terrain d'un particulier ou sur un terrain de loisir pour faire du gîte, de la chambre d'hôte. Voilà, et donc c'est cette nouvelle gamme qu'on souhaite proposer et développer, puisqu'elle répond à un besoin assez important, que ce soit en termes de logement ou en termes d'hébergement de tourisme.
Ça remplace le mobilhome en fait un peu.
Voilà, c'est un mobilhome, on va dire, gamme supérieure.
Et pour les impôts, ça se calcule comment ? Ça rentre comme une taxe d'habitation ou ça rentre comme un...
Ça reste effectivement chez un particulier ou chez un professionnel, ça va rester une construction assimilée à une construction en dur. En revanche, on a la possibilité aussi d'utiliser donc ces petits logements sur des terrains de loisirs, donc avec une fiscalité là un peu différente.
Il faut pas obligatoirement un terrain constructible. Si on a un étang et qu'on souhaite mettre une petite cabane, on peut mettre ce genre de cabanon ?
Voilà, tout à fait.
Comment vous appelez d'ailleurs ces cabanons ?
Alors, on les appelle des studios de jardin. On a appelé notre gamme Natura, puisqu'on est sur des ouvrages qui sont fabriqués à 99% avec du bois. Ça représente bien l'esprit de la Crotère. Donc, on a appelé cette gamme Natura. Et donc, ça peut être du studio de jardin, du bureau de jardin. On a effectivement, en fonction de l'usage qu'on en fait, différents noms possibles.
Alors, on n'a pas eu le temps de visiter votre showroom, mais est-ce qu'il y a l'odeur du bois quand on rentre dedans ? C'est toujours agréable quand on rentre dans un petit chalet. Il y a cette odeur de bois. Ou même dans un chalet de montagne. Est-ce qu'il y a cette odeur-là, du coup, dans
vos effectivement, c'est ce qui surprend souvent les gens quand ils rentrent la première fois dedans. Il y a deux aspects. C'est d'une part l'odeur, puisqu'on n'a pas l'odeur des matières plastiques qu'on peut retrouver dans les mobilhomes, même s'il fait chaud. Et la lumière, la clarté. Puisqu'on est sur un studio sur lequel on a une grande baie vitrée, enfin on n'a pas lésiné sur la qualité de la lumière, et c'est ce qui en fait aussi un espace très accueillant et chaleureux.
On va écouter un extrait musical, on va écouter un extrait de Trio, justement quelque chose qui rentre un petit peu dans cette thématique, ça s'appelle Greenwashing, et juste après on parlera un peu de l'énergie et comment ça fonctionne, genre l'empreinte énergétique pour un particulier, et quels sont les avantages de vos maisons du coup. Ça vous va ?
Très bien.
Allez, on écoute ça, on se retrouve juste après.
On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 green washing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 green washing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 green washing. C'est nous les
Tokyo du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 greenwashing.
Trio avec ce titre Greenwashing, d'ailleurs Trio qui seront en concert à Amiens en soutien à Ruffin pour donc un des membres fondateurs de Nuit Debout. D'ailleurs l'album de Trio s'appelle Vent Debout et il sera en concert à partir de 14h dimanche 14 mai pour soutenir ce candidat qui est sous l'étiquette de la France Insoumise. Voilà, de retour avec le directeur d'Acroterre pour nous parler de ces constructions écologiques. Alors juste avant, on parlait un petit peu de l'empreinte carbone des habitations. C'est quoi, vous avez fait des études pour savoir une habitation normale, c'était quoi l'empreinte carbone et puis la vôtre, la différence?
Alors aujourd'hui, on n'a pas d'études précises parce que ça demande un certain nombre de moyens qui sont assez importants. Ce qu'on sait de sources officielles, c'est que si on veut un élément de comparaison, sur la partie structure, d'une façon générale, si on compare un mètre cube de béton et un mètre cube de bois qui répondent pour de la maison individuelle, à peu près aux mêmes besoins en termes structurels, un mètre cube de béton émet une tonne de CO2 alors qu'un mètre cube de bois stocke une tonne de CO2. Voilà, donc on a un élément de comparaison assez simple. Pareil sur les isolants, si on compare les isolants à base minérale ou les isolants à base végétale, donc comme la laine de bois ou la ouate de cellulose, globalement sur un isolant à base végétale, on a une consommation d'énergie qui est à peu près 10 fois inférieure à celle qu'il faut pour produire un isolant minéral. Donc aujourd'hui, les bâtiments étant de plus en plus isolés, l'empreinte écologique des matériaux devient de plus en plus importante, puisque aujourd'hui, si on prend les statistiques, on considère que sur un pavillon classique, l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer les matériaux et pour fabriquer le pavillon correspond plus ou moins à 40 à 50 ans de consommation du pavillon. On voit que là, l'importance du choix des matériaux est vraiment fondamentale, puisque c'est bien de ne pas consommer d'énergie pour chauffer, mais il ne faut pas en consommer non plus pour fabriquer.
C'est combien du coup l'apport énergétique pour chauffer une maison moyenne par rapport à une maison classique? Ça, vous avez des chiffres là-dessus ou pas du tout?
Alors là, sur les constructions qu'on fait sur les différentes études thermiques qui ont pu être faites pour nos différents projets, on est sur des consommations de 25 à 30 kWh par mètre carré par an pour la partie chauffage. Donc on se situe pas sur du passif qui lui est plutôt de l'ordre de 10 à 15 kWh, mais on s'en approche. Après, sur de la maison passive, on saurait répondre à la demande. La question, c'est surtout qu'on a, très peu de demandes. Mais on essaye, nous, de toujours, en tout cas, avoir, 20 à 30% de consommation de moins que ce qui est imposé réglementairement.
La maison passive, c'est une maison qui engrange de la chaleur et qui la restitue la nuit, c'est ça
la maison passive, c'est une maison, globalement, dans laquelle il n'y a pas de nécessité d'installer de moyens de chauffage ou de refroidissement.
Là, les moyens de chauffage qui sont installés dans les maisons que vous avez construites pour le moment, c'est quoi? C'est du bois, c'est du granulé?
Alors,
c'est du fioul?
Essentiellement, effectivement, du poêle à granulé. Puisque, en fait, comme on a très peu de besoins de chauffage, ce n'est pas forcément pertinent d'installer un système de chauffage coûteux voilà, qui sera une usine à gaz. Donc, on essaie de s'orienter vers les moyens de chauffage les plus simples et les plus économiques, puisque on préfère que le client investisse dans la qualité et la performance de sa maison plutôt que dans des technologies de chauffage qui seront chères et qui demanderont beaucoup d'entretien.
Là, une maison totalement autonome, c'est-à-dire qui récupère son eau, qui crée son énergie électrique et son chauffage, c'est possible? Vous avez déjà conçu ce genre de choses? Il y a des projets qui sont en cours?
Alors aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, sur la Picardie, on a peu de demandes. Il y a beaucoup de régions dans lesquelles ça se fait, hein, notamment en Bretagne, en Vendée ou dans les zones un peu plus montagneuses, dans les Vosges notamment. Donc il y a des projets très intéressants. Nous, on rêverait hein, évidemment de travailler sur des projets comme cela. Donc on attend la demande. Voilà.
Si un auditeur veut faire une construction, c'est combien le coût d'une maison? C'est quoi le surcoût par rapport à une maison en dur, en pierre?
Alors, on compare toujours à performance égale, c'est-à-dire que globalement, à performance égale, qu'on soit sur la structure bois ou sur la structure maçonnée classique, on sera sur le même prix, voire peut-être un peu moins cher en bois, puisqu'on atteint très rapidement des très bonnes performances. En revanche, si on compare simplement un prix au mètre carré entre du réglementaire et ce que nous proposons, il y a évidemment un surcoût, puisque nous proposons une performance qui sera supérieure au réglementaire. Ouais, donc globalement, je dirais que sur un budget classique pour une maison individuelle clé en main, on sera sur du 1800 euros par mètre carré, voilà, qui est un tarif qu'on retrouve assez fréquemment quand on fait une maison en passant par un architecte, par exemple.
Là, c'est une vraie volonté de changement de vie. En fait, le but, c'est quand même une nouvelle réorientation un petit peu de notre consommation, de notre façon de consommer aussi la maison, quoi.
Voilà. C'est nous, ça, on considère que l'investissement doit se faire au départ, donc sur la qualité, la performance et la durabilité, puisqu'on peut faire aussi de la performance qui va durer un ou deux ans, avec des matériaux qui sont mis en œuvre de façon rapide pour que, voilà, au moment de la remise des clés, tout fonctionne bien et que les performances peuvent se dégrader assez rapidement. Donc nous, on travaille effectivement sur la qualité des matériaux et surtout la durée de la performance. Donc on considère que l'investissement doit se faire là-dessus plutôt que sur la facture de chauffage ensuite, qui elle restera la même, et qui augmentera même si l'énergie augmente.
Il y a des aides de l'ADEME sur ce type de construction. Alors, ils aident de plus en plus sur le fait d'isoler les maisons, les vieilles maisons. Est-ce qu'ils aident sur vos constructions? Est-ce qu'il y a des aides notamment en impôts, des crédits d'impôts, ce genre de choses?
Alors aujourd'hui, les aides sont surtout focalisées effectivement pour améliorer l'existant. On peut avoir quelques aides sur du neuf qui vont permettre de financer des études supplémentaires, notamment pour faire des études thermiques, pour faire une maison passive par exemple. Voilà, mais on n'aura pas d'aide en tout cas sur la construction à proprement parler.
Sur les collectivités, puisque normalement les collectivités doivent vous voir sur du très long terme, donc voir sur le bien commun, est-ce qu'elles vous commandent des maisons plus régulièrement? Je ne sais pas, des salles des fêtes par exemple avec une ossature bois et puis un système énergétique comme le vôtre?
Alors, on a effectivement quelques maires ou mairesses qui ont la volonté de montrer qu'on peut faire les choses bien, et y compris pour les collectivités. Donc, on a effectivement réalisé quelques ouvrages, notamment la salle des fêtes de Chevincourt, qu'on a entièrement refaite, donc isolée en ouate de cellulose avec des matériaux sans émission de formaldéhyde. On a fait des bâtiments de logements collectifs également pour l'OPAC du Val d'Oise. On a quelques exemples, effectivement, de bâtiments et d'ouvrages performant et en tout cas exemplaire.
Il y a une vraie volonté politique sur cette transition énergétique ou encore trop peu?
Alors ça dépend vraiment des personnes. C'est vraiment très lié aux personnes. On a beaucoup d'aides potentielles de la part de la région, de la part des départements, notamment sur l'utilisation du bois local. Il y a un énorme programme d'aide et d'accompagnement pour l'utilisation du bois local, puisqu'on est aujourd'hui sur une des régions les plus boisées de France. Et malheureusement, le bois part souvent à l'étranger, ou n'est pas exploité en tout cas directement dans la construction. Donc il y a des programmes, notamment par Nord Picardie Bois, pour accompagner et aider à l'utilisation du bois local.
Vous avez des espèces de lobbying qui vont voir les... Parce que j'imagine que vous êtes 7, vous n'avez pas le temps d'aller faire la retape auprès de chaque mairie. Est-ce qu'il y a un lobbying pour la construction écologique?
Alors, on en a au niveau du matériau bois, effectivement, donc notamment.
Donc, c'est la filière en fait.
Bois, ouais. Voilà, la filière bois, la filière l'ADEME est aussi assez prescriptrice. Nous, de notre côté, effectivement, on n'a pas le temps de pouvoir en parler beaucoup. En revanche, on a un réseau d'architectes avec qui on travaille et qui eux sont aussi porteurs de cette idéologie et de cette volonté et qui eux, donc, en répondant auprès des collectivités, permettent d'améliorer les systèmes constructifs.
Les gros mastodontes de la construction. Est-ce qu'ils regardent un peu vers votre territoire ou est-ce que...
Alors effectivement, ils se posent beaucoup de questions. Donc la plupart aujourd'hui des majors ont leur propre structure pour faire de l'ossature bois ou de la construction bois, mais plutôt pour des programmes très importants, donc 50, 100 logements ou des tours d'immeubles comme on commence à voir pousser aujourd'hui. En revanche, sur des projets un peu plus limités, ils sont très demandeurs effectivement d'avoir des acteurs locaux qui leur permettent de répondre. Donc on a travaillé notamment sur le pôle d'excellence rurale à Noyon, où on a assuré toute la partie bois et toute la partie isolation écologique. Donc c'était un projet assez important. Voilà, donc on peut effectivement faire des exemples avec les partenaires plus importants.
Là, il y a une usine, ça se passe comment ? La construction, elle se fait où ?
Alors, on a une usine qui est à Lassigny, dans le nord de l'Oise. Donc, on a environ 1000 m² de bâtiments sur 6000 m² de terrain. Et nos bâtiments donc, sont équipés pour pouvoir préfabriquer entièrement les parois à l'atelier. Donc, on est un peu sur un système en kit. On préfabrique, on est capable de préfabriquer dans nos ateliers les murs en allant jusqu'au parement intérieur, donc en plaque de plâtre avec l'électricité passée, les menuiseries posées et le parement extérieur qui est posé. Donc, on est capable aujourd'hui de préfabriquer quasi intégralement un ouvrage en atelier. Et ensuite, donc, on les transporte sur notre camion et on les grutte et on les assemble sur place. Donc, ça permet d'avoir un chantier très rapide, clé en main.
C'est du Lego, quoi.
Voilà, c'est même plus que du Lego, puisqu'on est vraiment sur des murs intégraux. Donc, on est capable de fabriquer aujourd'hui des murs de 9 mètres de long, qui répondent quasiment à tous les besoins en termes de construction de maison.
La construction, ça se passe comment ? Il y a une photo sur le dossier de presse. C'est justement une presse, c'est une presse à bois, c'est ça ? C'est quelque chose qui se rapproche ?
On appelle ça une table de cadrage. C'est effectivement une grande table donc qui fait 9 mètres de long sur 3 mètres de large, sur laquelle on fabrique le mur à plat. Donc ça permet aux équipes d'atelier de travailler à hauteur d'homme, donc de travailler dans de bonnes conditions. Et ça nous permet aussi d'avoir des murs qui sont parfaitement plans, qui sont parfaitement d'équerre, puisque la table est pré-réglée pour pouvoir préfabriquer directement les murs avec une bonne qualité géométrique.
D'accord, donc il y a vraiment un travail vraiment manuel, quoi. Tous les murs sont quasiment faits à la main, quoi. Il n'y a pas de mécanisation sur ce...
Voilà, nous on a fait le choix, étant en scope, l'intérêt c'est de faire travailler des gens et pas des machines. Donc on a fait le choix d'investir dans des outils qui permettent de travailler dans des bonnes conditions de confort et de sécurité pour nos salariés. En revanche, tout ce qui peut être fait à la main est fait à la main. Voilà, ça nous permet d'une part d'être plus serein, de ne pas avoir des millions d'investissements et en même temps de pouvoir faire travailler des hommes plutôt que les machines.
Là, sur les petits modules, ça commence à combien le tarif si on veut un petit module de, je sais pas, on va dire une quinzaine de mètres carrés?
Alors là, donc notre studio Natura, il fait 17 mètres carrés et demi intérieur. On est sur un tarif à 19 600 euros TTC, départ usine. Et puis ensuite, on a des options donc, pour avoir une salle d'eau complète avec une kitchenette. On a une option aussi pour le mobilier. Donc, il peut être entièrement aménagé avec le mobilier jusqu'à la petite cuillère. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire du locatif ou de la chambre d'hôte, voilà, pour vraiment avoir un projet clé en main. Donc, on va dire que pour un studio de jardin entièrement équipé, fourni, posé, on est à entre 25 et 30 000 euros voilà, selon le lieu de pose, les conditions de pose.
Là, aujourd'hui, vos clients, ils ressemblent à quoi ? C'est quoi ? C'est des gens qui sont sur la transition énergétique, des gens qui sont déjà... qui ont déjà l'âme écologique ou c'est des gens qui veulent tester un nouveau matériau de construction ?
Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des personnes qui recherchent à grandir ou à se simplifier la vie, mais qui ont besoin d'un espace en plus. L'aspect écologique est évidemment un aspect intéressant, mais ce n'est pas forcément la première demande. On travaille beaucoup, je le disais tout à l'heure, sur la qualité de vie, la qualité intérieure, la clarté, etc. Et donc c'est plus là-dessus que les gens vont accrocher. Donc on a à la fois un public de particuliers qui cherche à avoir une pièce en plus pour loger un parent, un adolescent ou recevoir du monde. Et d'un autre côté, sur un public plutôt événementiel, donc pour de ou tourisme, pour de la chambre d'hôte ou pour pouvoir faire de l'hébergement locatif.
Pour faire un petit pool house ?
Ça peut être pour faire un petit pool house. Voilà, c'est... Après, il y a énormément d'usages qui peuvent être imaginés. Des bureaux de jardin aussi, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte et donc qui ont besoin d'un espace pour leur bureau à côté de la maison. Donc, c'est tout à fait adapté.
Là, vous avez participé au salon de l'habitat à Compiègne. Ça s'est déroulé comment ? C'était votre premier salon de l'habitat ou il y en avait déjà eu d'autres à Compiègne ?
Alors, on a présenté effectivement notre studio Natura sur le salon de l'habitat de Compiègne au Tigre. On l'avait présenté le mois précédent sur le salon de l'habitat de Beauvais. Donc là, c'est le studio est posé directement devant le salon. Donc les différents visiteurs ont pu visiter et voir de visu notre studio en grandeur nature. L'accueil était vraiment plutôt encourageant, plutôt sympa. Alors c'est un produit que les gens découvrent puisqu'ils n'imaginent pas en venant sur le salon voir ce type de produit. Donc ça va faire son petit bonhomme de chemin, je pense, dans la tête des visiteurs. Et je pense que l'année prochaine, en représentant de nouveau le même studio, on aura des retours assez positifs.
À la revente, ça se revend bien aujourd'hui ? Est-ce que les gens sont... Il y a un marché de l'occasion de ce genre de bâtiment ou pas du tout ?
Alors, sur le mobilhome, il y en a un qui est certain, oui. Donc là, on peut imaginer que sur ce type de produit, on pourra en avoir un aussi. Effectivement, l'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur un produit qui est complètement intègre, c'est-à-dire qu'on peut le lever, le soulever et le mettre sur un camion à n'importe quel moment pour le déplacer. Donc même si on déménage, on peut partir avec. Voilà, c'est le gros intérêt de ce produit-là.
Et sur les maisons, plus les maisons traditionnelles, est-ce que ça se revend bien, une maison en ossature bois ? Ou c'est
alors,
difficile.
Nous, on vise effectivement un niveau de performance qui est supérieur à celui qui est imposé par la norme, par la réglementation. Effectivement, la possibilité de revente est assez intéressante puisqu'on ne perdra pas en performance et même dans 10 ans, quand la réglementation aura évolué, on sera toujours au goût du jour. Donc ça se revendra effectivement de façon beaucoup plus facile que sur un bâtiment qui suit vraiment stricto sensu les normes et qui plus est aura peut-être perdu de ses performances dans les 10 ans à venir.
La filière a-t-elle fait des enquêtes pour savoir si un jour ou l'autre ça allait devenir un peu hype, un peu à la mode, comme l'est aujourd'hui le bio ou ce genre de choses ? Est-ce que vous avez une vision sur du long terme ? Est-ce qu'un jour tout le monde va se mettre à faire des maisons en bois ? Ou surtout en acheter déjà ?
Alors, on va suivre un peu les proverbes indiens. On observe ce qui se passe et ce que font les grands. Et puis, on en déduit certaines choses. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tous les majors ou tous les constructeurs sont en train de s'orienter vers l'ossature bois. Donc, c'est que... nous, on en est convaincus, puisqu'on est parti directement sur ce système-là. Mais ça présage en tout cas un bel avenir pour la construction bois.
Là, j'imagine que l'Eldorado, c'est un peu les pays nordiques qui était en avance par rapport à nous, c'est le cas ou pas du tout ?
Alors, c'est les pays nordiques, tous les pays de l'Est aussi, l'Allemagne, ouais. L'Autriche, la Suisse, évidemment. Donc, tous les pays qui avaient une certaine culture du bois. Aujourd'hui, on a énormément de nouveaux produits qui arrivent tous les ans. Et donc, notamment des produits qui permettent aussi de faire des immeubles de grande hauteur. Donc, il est très probable qu'il y ait un fort développement aussi sur les immeubles de grande hauteur.
C'est combien du coup, grande hauteur ? C'est combien d'étages ?
Alors aujourd'hui, je ne sais plus quels sont, parce qu'il y en a tous les ans, il y a des nouveaux immeubles qui arrivent. Je crois qu'aujourd'hui, au maximum, on est monté à 17 étages en France. Donc on peut commencer à faire des belles réalisations déjà.
Donc là, c'est juste l'ossature qui est en bois ou c'est également les extérieurs qui sont en bois de ce genre de bâtiment ?
Alors là, on est sur des bâtiments qui sont intégralement en bois, mais on n'est plus sur de l'ossature bois, on est sur du bois massif. Donc c'est des voiles bois massif qui ressemblent à du voile béton, sauf qu'au lieu d'avoir du béton, on a du bois.
C'est du bois à l'intérieur. Ouais. On peut en voir en France, de ce genre de construction ?
Alors, il y en a quelques-uns dans les Vosges, donc notamment l'aménageur qui s'appelle le toit vosgien, qui a fait plusieurs réalisations, belles réalisations. Et on a aujourd'hui des immeubles qui sont en train de se construire sur Paris. Ouais.
On va réécouter un extrait musical, on va écouter le nouvel album de Magic Sherfield. Il sera en concert à Noyon au mois de novembre prochain, on en reparlera d'ici là. Son nouvel album s'appelle Catégorie Reine. On vous a diffusé déjà le titre Les filles d'en face, cette fois on vous diffuse le titre Tu, qui rentre en programmation sur notre antenne. C'est parti, à tout de suite.
Devant quelques fleurs, je me rappelle d'un tu. Je pleurais, papa, te rappelles-tu ? Ce mode de l'être sans pitié, venu là pour te tutoyer. Jamais à aucun de tes rendez-vous, jamais t'as eu droit à un vous. Oh, qu'est-ce qu'ils en disent les cieux, jamais t'as eu droit à un monsieur. Pas une seule fois et je parie que tout est peut-être d'Henri. Qui sont ces hommes qui t'ont dit toi, jamais vous-même sous ton toit. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous. Un jour on a dit à mon père tu, on lui a dit tu et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous, et j'avoue que cet étranger qu'a dit tu à mon père, est-ce qu'au moins c'était son frère? Est-ce qu'au moins c'était son ami pour qu'il se le soit permis? Est-ce qu'ils ont fait les 400 coups pour que ce tu vaille le coup? Ce fut mon premier tu et je suis tombé pour deux lettres de l'alphabet. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous. Sur le chemin de retour à ce rendez-vous, je me suis dit à quoi ça sert un vous? Est-ce qu'il existe que pour vous? Est-ce qu'il faut deux tu pour faire un vous? Les ricains qu'on a dit voyous, eux n'utilisent que le you. Pour une fois chez les Gaulois, est-ce la faute qui fait la loi? Ce tu fais la peau, mais je jure sur ce pronom pas singulier, qu'à la prochaine familiarité, la brute sera abattue. Le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise vous, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise, le petit veut qu'on dise vous.
Majid Sherfid avec ce Majid Sherfid avec ce titre catégorie reine sorti sur le label Pias, le titre tu. Également on sera présent à l'Ermitage, ça sera ce samedi, on réalisera une émission en direct dans leur porte ouverte, un projet éco-citoyen, éco-hacking, ça sera à partir de 14h sur notre antenne. On aura donc les organisateurs, enfin les membres de cette grande communauté, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'est presque ça, hein. Ils ont acheté un énorme bâtiment, une énorme, donc plein de bâtiments pour pouvoir faire donc des expos d'artistes, pour pouvoir faire du maraîchage, enfin voilà, on en parlera tout ça samedi à 14h30. On continue de parler de maisons et notamment d'ossature bois. On va revenir assez rapidement sur aujourd'hui où on peut voir ces maisons ou en Picardie.
Alors si on parle du studio, nous on en a un chez nous, hein, donc sur il suffit de venir le visiter à La Cigny, il est en exposition permanente. Ensuite sur les ouvrages maisons, on a la chance d'avoir nos clients qui sont tout à fait ouverts à faire visiter les maisons qu'on a construites pour eux. Donc il y en a un petit peu partout, hein, du côté de Compiègne, du côté de La Cigny, du côté de Amiens, on a plusieurs exemples aussi. Voilà, donc un petit peu partout sur la région Picardie.
C'est quoi les tailles de maisons? Du coup, on peut visiter quelle taille de maison?
Alors, on est sur les maisons, on est de l'ordre de 150 mètres carrés en moyenne. Hein. Voilà, on a aussi plusieurs exemples d'extensions qu'on a construites dans la région. Donc là, on va de 20 à 50 mètres carrés. Voilà, et ensuite, il y a quelques ouvrages publics donc à proximité aussi. Voilà, donc notamment salle des fêtes, cantine, extension de mairie.
Qu'est-ce qui pourrait amener, d'après vous, une augmentation de ce genre de construction, une volonté politique, un changement de mentalité?
Alors, le principal levier, ça va être la réglementation thermique, puisque plus la réglementation thermique va se durcir et plus on va être obligé d'aller vers des solutions performantes. Et le bois, c'est une façon assez économique de faire de la performance. Donc, le principal levier va être la réglementation thermique et son évolution. Ouais.
Là, avec l'arrivée du président Macron, vous pensez que c'est en bonne voie, cette transition écologique, énergétique ? On n'a pas beaucoup entendu parler pendant la campagne de l'écologie quand même.
Alors si ça s'accompagne de financements, on va dire ciblés vers le développement d'entreprises du bois, du secteur du bois, de la performance, effectivement ça pourrait être un levier. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'offre est déjà là, on va dire. Ce qui nous manque, c'est la demande. Donc un accompagnement sur le financement des projets pour les particuliers sera un levier très bienvenu sur la construction écologique. Ouais.
Vous prenez des stagiaires, je vous ai dit tout à l'heure que vous y avez un stagiaire, c'est ça ?
Alors on a un ouvrier en alternance, donc quasiment depuis la création d'Acroterre, on a fait le choix aussi de former les jeunes. Donc aujourd'hui on a une personne en alternance en construction bois.
Et c'était quoi lui sa volonté ? C'était dès le départ, il s'est dit, il a fait quoi ? Il a fait de l'architecture ou il a fait le travail du bois comme le compagnonnage ?
C'est un jeune qui a commencé par un BEP, un CAP menuiserie, BAP, BEP dans la même veine. Et donc toujours passionné par le bois, il s'est orienté vers un bac pro construction bois.
Là aujourd'hui, il n'y a pas un compagnonnage du montage de maisons en bois encore ? Ça existe.
Alors, il y a des formations chez les compagnons d'Arras, par exemple, compagnons de voir à Arras, qui est ciblé sur l'ossature bois, oui, tout à fait.
Aujourd'hui, sur la rénovation, vous faites également de la rénovation de vieux bâtiments, où c'est vraiment, je pense par exemple aux églises, à l'architecture des églises, ce genre de choses, vous le faites ?
Alors, en rénovation, on n'interviendra pas sur notamment du monument historique ou de la rénovation de bâtis vraiment anciens. On interviendra sur la rénovation si on apporte de la performance thermique. Donc là, on va travailler plutôt sur des ouvrages, on va dire, des années 50 à 80, qui nécessitent une isolation par l'extérieur. Il y a eu notamment un appel d'offres pour la réhabilitation thermique du pôle de la pépinière d'entreprise des Rives de l'Oise, donc sur lequel il est prévu de déshabiller entièrement le bâtiment et de le réhabiller avec une ossature bois. Voilà, donc c'est un appel d'offres qui est en cours et ça fait partie effectivement des projets de rénovation sur lesquels on souhaiterait travailler.
Cette construction a daté des années 60 ? Elle était si vieille que ça ?
Rive de l'Oise, on est années 80 me semble-t-il.
Ouais, donc on aurait pu être déjà proactif et puis déjà y penser. Ça a commencé quand d'ailleurs, cette envie de la transition énergétique et notamment des ossatures bois et aussi des changements pour l'isolation ?
Alors, la première réglementation thermique, sauf erreur de ma part, date des années 2000, du début 2000. Voilà, donc effectivement, il y a eu des incitations dès le premier choc pétrolier, en 1974, pour faire des économies d'énergie, notamment avec les labels délivrés par EDF pour pouvoir chauffer à l'électrique et donc avoir une isolation renforcée. Disons qu'on a commencé à parler d'isolation du bâtiment à partir des années 70-80 et ça a été réglementé assez tardivement, fin 90, début 2000.
On retrouve toutes les informations sur un site internet. Vous nous donnez l'adresse de ce site ?
Donc notre site c'est www.acroterre.net. Voilà, sur lequel vous pouvez retrouver donc des exemples de réalisations qu'on a faites. Vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne les petits tuyaux de jardin Natura avec les différentes options. Vous pouvez même réserver en ligne. Et vous trouverez également quelques indications techniques sur les matériaux qu'on utilise et puis sur l'esprit d'Acroterre.
Il y a également les ventes de terrain, en fait. Comme ça, vous faites aussi l'intermédiaire entre la personne qui veut acheter un terrain et puis celle qui veut la construire.
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment dans l'optique du développement de notre gamme vers la vente de maisons individuelles. Et donc, effectivement, pour proposer un produit totalement clé en main, on propose également des terrains. Voilà, donc on recherche des terrains, surtout sur autour des agglomérations. On n'a quasiment pas en fait de catalogue, donc on travaille beaucoup sur mesure. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des terrains pour pouvoir proposer un projet parfaitement adapté au terrain, ce qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres constructeurs qui travaillent uniquement sur catalogue.
Hervé Puro, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On rappelle le site internet www.acroterre.net. Il y a toutes les informations. Vous pouvez retrouver donc les ventes de terrain, les modules, les maisons modulaires. Également, il y a les fabrications de bâtiments plus publics et les maisons traditionnelles.
Voilà.
On vous retrouve prochainement en Picardie sur un salon.
Alors, on nous retrouvera en Picardie sur le salon du Touquet de l'hôtellerie de plein air, donc qui sera au mois de novembre. Voilà, donc là, vraiment pour notre studio de jardin Natura. Et on nous retrouvera évidemment sur tous les salons de l'habitat de Beauvais, d'Amiens et de Compiègne.
Bah, merci beaucoup, bon après-midi.
Merci beaucoup.
Make it, do it, make it. access. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Après les constructions écologiques agro-terre, on va parler d'un événement qui se déroule ce week-end, première fête du parc de Jérém à Crépy-en-Valois. J'ai avec moi l'adjointe à l'écologie, c'est ça? Bonjour.
Bonjour, c'est... alors le titre exact c'est adjointe à l'environnement, l'urbanisme et l'agenda 21.
Très bien, donc vous êtes madame Muriel Volski, c'est ça?
C'est ça.
Très bien, alors parlons de ce... Alors déjà, est-ce que j'ai bien prononcé le nom de ce parc?
Oui, tout à fait, c'est Jérém. Parfois l'orthographe est discutée, certains mettent un S à la fin de Jérém, mais il n'y en a pas. Et effectivement, c'est un parc qui est renommé dans notre région.
Alors parlons de cette première fête du parc. Pourquoi avoir fait cette fête du parc à Crépy-en-Valois? C'était quoi l'intérêt? Là, c'est à la suite de la COP21, c'est ça?
Alors, Crépy-en-Valois mène depuis plusieurs années une politique active en matière de défense et de préservation de la biodiversité. C'est vrai sur tout le territoire de la ville et c'est tout particulièrement vrai au sein du parc de Jérém. Et donc pour afficher davantage encore cette préoccupation, l'idée est née de développer une grande manifestation dédiée à la nature et à l'environnement. Je précise avant d'entrer dans le détail de la manifestation que Crépy fait mieux que la loi Labbé qui a été mise en place au début de l'année 2017 en concernant les zéro phyto. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Absolument,
depuis,
oui.
depuis janvier 2017, on n'a plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires. Et Crépy, on est très en avance sur le sujet, et ce depuis plusieurs années. Et on va plus loin que la loi Labbé, en sens où on n'en a plus du tout, ni sur les terrains de sport, ni sur les cimetières, ni sur la voirie et les espaces publics. Donc on est très fort. Et donc pour afficher tout ça, pour affirmer tout ça, l'objectif est de dédier une journée, une grande manifestation dans ce parc de 24 hectares et de réunir des participants qui vont avoir des centres d'intérêt différents, mais le fil rouge, c'est la préoccupation en matière environnementale.
Donc qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans le cadre de cette fête?
Alors, il y a près de 40 stands qui vont être répartis sur le parc et on en a pour tous les goûts, tous les âges. Dans le sens où, par exemple, on va avoir le parc du Marcanterre qui est quand même une grande pointure, une grande signature touristique, environnementale, écologique de notre région, grande région, donc Picardie, Hauts-de-France aujourd'hui. Nous avons aussi le Muséum National d'Histoire Naturelle qui sera présent avec son réseau Viginature pour inciter les enfants à apprendre à regarder ce qu'il y a autour d'eux. Et donc, on aura des spécialistes qui savent parler aux enfants et qui savent nous émerveiller aussi parce qu'ils nous apprennent à regarder ce qu'il y a autour de nous. On aura des producteurs bio. Il y aura aussi des jardiniers, il y aura des auteurs jeunesse qui parlent dans leurs bouquins de nature et d'environnement à des enfants de différents âges. Il y aura la Ligue pour la protection des oiseaux, il y aura la LPO de l'Oise, mais pas seulement, et je finirai sur le sujet tout à l'heure. Il y a également Picardie Nature, il y a des associations de protection de l'espèce animale, il y a des lycées qui viendront présenter leur formation toujours dans le domaine environnemental. On aura des photographes qui seront là, qui feront une exposition. On a une artiste peintre. Vous voyez, l'idée, c'est de proposer à chaque stand une offre différente pour attirer le maximum de visiteurs qui se disent « Ah oui, tiens, je vais aller voir l'expo photo et puis finalement, je vais aller discuter avec un mycologue, je vais aller discuter avec les pros des oiseaux. » Et comme ça, tout le monde s'approprie la préoccupation de l'environnement qui est la nôtre.
C'est dans la continuité de vos rendez-vous, nos bio-rendez-vous, dont il y avait la troisième édition cette année, c'est un peu dans cette continuité-là ?
Exactement, les bio-rendez-vous, donc on en est, comme vous le dites, à la troisième édition en 2017. C'est un événement donc récurrent qui vise à attirer, à faire un focus sur un sujet particulier. En 2017, nous avions les abeilles et on avait mis dans la boucle les écoles qui ont largement participé à ce sujet, avec une contribution de dessin, c'était vraiment très sympa, et puis il y avait des conférences, des échanges en mairie. L'année dernière, on avait mis à l'honneur les arbres, et les habitants de Crépy pouvaient se procurer à moindre coût des arbres, et donc planter joyeusement. Il faut savoir que quand on plante des arbres, c'est non seulement décoratif, mais en plus, ça fait du bien à la santé de chacun, parce que l'arbre, c'est une vraie machine à laver des cochonneries qu'il y a dans l'air quand même. Hein. Donc, c'est intéressant de mettre ça en avant. Et la première année, on avait mis en avant ce qu'on appelle l'Atlas de la biodiversité communale. C'est une formidable bible de tout ce qui se fait en matière de faune et de flore à Crépy. Sur différents sites, il y avait plusieurs sites qui avaient été passés en revue par des scientifiques, et on a de sacrées pointures localement en parlant. Et donc ces scientifiques avaient repéré les différentes essences et différentes sortes d'oiseaux, de papillons, de chauves-souris, et c'était un travail formidable à mettre en avant. Donc effectivement, l'idée à chaque fois, c'est de communiquer sur le sujet, c'est d'attirer l'attention sur la politique menée, et puis que chacun reprenne à son compte donc le zéro phyto dans son jardin, c'est mieux. Hein. Les plantations d'arbres, ben c'est bien pour tout le monde, voilà.
Alors il me semble que votre maire a été élu sans étiquette. L'écologie, c'est quelque chose de transpartisan. Alors nous à Compiègne, sur l'écologie, on a la fête de la chasse et de la nature. C'est quand même pas la même chose que votre fête à Crépy-en-Valois.
Ah ben, quand il y a des manifestations qui ont pour vocation de parler, nous on ne parlera pas de la chasse, là en l'occurrence, Compiègne est une terre de chasse, donc c'est logique que la manifestation s'adapte aussi à ce qui fait l'histoire et la richesse de chacun des territoires. Donc à Crépy, votre terme, effectivement, on est sans étiquette, mais sans étiquette, ça ne veut pas dire ne pas être concerné par l'environnement. Enfin, l'environnement et le bien-être de chacun, ça doit être un sujet de préoccupation, quelle que soit la couleur politique. Et là, notre objectif est clairement de mettre un coup d'accélérateur sur cette politique environnementale.
Vous allez quand même inaugurer un refuge pour les animaux, alors que chez nous, les animaux, ils se font plutôt tirer dessus.
Alors, je précise, justement, tout à l'heure, je vous ai parlé de la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO. Alors, qui a commencé sa vie il y a 80 ans, je crois, enfin, il y a plusieurs décennies, en se préoccupant d'oiseaux, mais maintenant c'est devenu l'une des premières, si ce n'est la première association de préservation de la nature et de la biodiversité. Quand je vous disais que Crépy menait une politique active sur le site du parc de Gérême, ben cela se vérifie et cela va être vraiment affiché et affirmé une nouvelle fois, parce qu'avec la présence de Alain Bougrain-Dubourg, qui est le président donc de la Ligue pour la protection des oiseaux France. Alain Bougrain-Dubourg, qui est un animateur, un réalisateur de documentaires animaliers et de nature, et il vient ériger le parc au rang de refuge LPO. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est soucieux au quotidien dans ce parc urbain, parce qu'on est dans un parc urbain, On est soucieux au quotidien de donc, la préservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'on va faire du fauchage tardif. Ça veut dire que l'on va maintenir les arbres avec les cavités pour que les oiseaux puissent nicher. Ça veut dire que on va laisser sur le site des troncs qui sont du bois mort, mais qui est nécessaire pour recueillir tous les insectes qui font cet écosystème. Donc voilà, le refuge LPO, ça veut dire protection de la biodiversité, et pas simplement qu'on ne touche pas qu'aux oiseaux, on ne touche à rien, on fait justement en sorte de préserver la nature, toutes les espèces et toutes les essences. C'est ça l'objectif. Et la présence d'Alain Bougrain-Dubourg, j'en suis vraiment ravie et fière, parce que ça veut dire que les efforts conduits par la commune depuis plusieurs années ont été repérés, et ça va nous encourager à continuer dans ce sens.
Pour les auditeurs qui ne savent pas qui c'est ce Alain Bougrain-Dubourg, c'est le monsieur qu'on peut voir relâcher les oiseaux avec cette année le Slipgate, avec la personne avec sa pelle et puis en slip qui est venu taper à Alain Bougrain-Dubourg, c'est ça ?
Alors oui, ça date de l'année dernière, hein. Je crois que c'est pas 2017, hein. On doit être en 2016 cette vidéo avait fait le tour sur le net, mais effectivement il a depuis 25 ans, parce qu'il est à la tête de cette ligue pour la protection des oiseaux depuis 25 ans, il a pour souci de préserver les oiseaux, mais pas que, comme je disais, mais pas que. Et effectivement, il s'est fait remarquer par la diffusion très large sur Internet d'une opposition comme ça avec un riverain. C'est un acteur national, et il était convié au titre de la LPO, mais il est aussi membre du Conseil économique et social. Et à ce titre-là, il était convié à la COP21 qui s'est tenue il y a un peu plus d'un an sur notre territoire, à quelques kilomètres de Crépy-en-Valois d'ailleurs, on n'était pas loin.
Ça, c'est les horaires de cette première fête de Parc de Jérém, c'est quand, de quelle heure à quelle heure et de quand à quand?
C'est dimanche 14 mai de 10h à 19h, je répète, avec une quarantaine de stands, avec des animations pour les petits et les grands. Les petits, il y a des ateliers qui sont accessibles dès l'âge de 2 à 3 ans, et il y en a vraiment beaucoup. Il y a des sorties, il y a des activités sur stand, et il y a des sorties dans le parc accompagnées, éclairées si je puis dire, avec des mycologues, des entomologistes, avec des pros des oiseaux, avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui va nous apprendre à faire quelques petits prélèvements et à les regarder pour voir comment on peut classer, travailler sur les essences présentes au parc. On va avoir une super offre aussi, on a un camion dédié à la science. On connaît les food trucks, mais là c'est on pourrait baptiser ça science truck, où on aura des microscopes pour regarder de plus près la végétation, les insectes, et ça c'est absolument fantastique pour les jeunes, mais pas que pour les enfants, hein. Ça ce sont des activités aussi pleinement accessibles aux adultes et à faire en famille. On a une auteure qui va nous faire des lectures en marchant dans le parc, d'auteurs tels que Tourguenieff ou je ne sais plus, j'ai perdu les autres noms, qui veut nous faire des lectures de textes, de grands auteurs qui parlent de nature. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des tours de poney qui vont être possibles dans le parc, et ça, c'est une grande première. Donc voilà, l'idée est d'avoir un événement festif, familial, convivial, jovial, pour parler de nature et d'environnement.
Et votre prochain rendez-vous bio, c'est quand ?
Alors, ce sera au premier trimestre de l'année 2018, mais je n'en ai pas encore arrêté la thématique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un événement qui a réussi à s'inscrire dans le calendrier général des Crépinois, et qu'on a de plus en plus de monde, et ce, à toutes les manifestations dédiées à l'environnement. C'est vrai que la nuit de la chouette, à Crépy, il y avait quand même plus de 100 personnes.
Et si les auditeurs veulent redécouvrir ou découvrir cet événement, il y a également un très beau reportage réalisé par RVM qui est disponible sur leur Facebook, qui parle de l'abeille à l'honneur en 2017. Merci beaucoup Muriel Wolski. Donc on rappelle, vous êtes adjointe à l'environnement. C'est la fin de votre titre, c'est, vous pouvez me le rappeler ?
Alors c'est environnement, urbanisme et agenda 21. L'agenda 21, c'est, enfin, sous ce terme-là, comment on retrouve les bonnes pratiques en matière d'environnement. Mais environnement, ça veut dire non seulement prendre soin de, comment, des petites bêtes, si je puis dire, à l'extérieur, mais ça veut dire aussi comment moins consommer. Voilà. Donc, vous voyez, la palette est large. Enfin, quand on parle d'environnement, il ne s'agit pas uniquement des pâquerettes. Hein.
Vous avez commandé du soleil, j'espère ?
Ah, mais j'ai coché, alors après je vais voir si j'ai une réclamation à porter, mais j'espère que non, qu'il sera beau. En tout cas, tout le monde est prêt. Je reçois des messages de nombreux participants qui me disent être au taquet et prêts à recevoir et à transmettre de leur passion, donc ça c'est fantastique.
Merci beaucoup, bon après-midi, et rendez-vous dimanche 14.
Au plaisir.
Merci
bientôt,
beaucoup, au revoir. Dimanche 14 mai, donc on vous rappelle la première fête du parc Jérém de Crépy-en-Valois. Allez y faire un tour. Si vous avez pris cette émission en cours de route, vous pourrez la réécouter sur le net www.graphite.net. Elle sera également disponible sur Mixcloud. Et toutes les informations seront mises dans cette émission à la suite, dans le post Facebook. Bon après-midi, restez branchés et on se retrouve très bientôt sur le 94.9. À bientôt. And they grew up in a way that we never seen.